D'accord. Il est 7h.
Karine Joriot.
C'est ce dimanche que le village de Briens, dans les Grisons, doit à nouveau être évacué et ce d'ici 13 heures. Plus d'un million de mètres cubes de roche menacent de s'abattre sur le village qui compte environ 80 habitants. Tous les habitants et les animaux ont l'obligation de quitter les lieux. Ils doivent s'attendre à ne pas pouvoir revenir avant plusieurs mois, selon les autorités. Le village avait déjà dû être évacué en mai 2023. En juin, plus d'un million de mètres cubes de roche se sont effondrés dans la nuit en direction du village. Seule une petite cabane avait été emportée. L'armée israélienne a ordonné aujourd'hui aux habitants de trois secteurs de la banlieue sud de Beyrouth d'évacuer immédiatement. Un avertissement qui précède toujours des frappes aériennes qui visent des installations du Hezbollah. Le président chinois Xi Jinping a exhorté hier les États-Unis à ne pas franchir la ligne rouge dans leur soutien à Taïwan. Il a formulé cet avertissement lors d'une rencontre avec le président américain sortant, Joe Biden, à Lima, en marge du sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. À deux mois du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Xi Jinping a affirmé que la question de Taïwan, la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que le système politique et économique chinois et ses intérêts en matière de développement sont les quatre lignes rouges de la Chine qui ne doivent pas être mises en question. Il a par ailleurs assuré son homologue américain que Pékin œuvrerait à une transition en douceur avec le nouveau gouvernement américain. Joe Biden va devenir aujourd'hui le premier président américain en exercice à se rendre en Amazonie. Une visite historique marquée par des inquiétudes sur l'avenir de la politique environnementale américaine avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Le président américain doit survoler la plus grande forêt tropicale de la planète. Il rencontrera également des indigènes et des responsables locaux. Le super typhon Manny balayait ce dimanche les Philippines avec des vents à 185 km/h et des pointes jusqu'à 325 km/h selon l'agence météo. Aucune victime n'a pour l'heure été déclarée, mais la tempête a déraciné des arbres, couché des lignes électriques et arraché des toitures. Plus de 650 000 personnes ont fui leur domicile. En tennis, Yannick Sinner s'est qualifié hier sans difficulté pour la finale du Masters ATP à Turin en battant le Norvégien Casper Ruud en 2-7, 6-1, 6-2. Yannick Sinner qui retrouvera donc l'Américain Taylor Fritz pour la finale, rencontre à 18h aujourd'hui. Le temps pour aujourd'hui, le banc de brouillard ce matin sur le plateau, sinon encore bien ensoleillé, déjà nuageux dans l'arc jurassien en cours d'après-midi, passage nuageux en augmentation à partir du nord-ouest et la soirée sera plus nuageuse avec quelques précipitations, maximum 10 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Je suis journaliste scientifique. L'autre jour, au Muséum d'histoire naturelle de Genève, j'ai rencontré un œuf de dinosaure qui parle.
C'est moi, l'œuf de dinosaure qui parle. Et je dis des trucs ultra stylés. J'ai convaincu Uma de faire un podcast sur moi. Enfin, sur les dinosaures.
Bon, l'œuf, on s'était mis d'accord. C'est moi qui fais la promo.
Ok, ok.
On t'emmène découvrir des fossiles géants, des paléontologues et des scientifiques qui vont répondre à toutes nos questions.
Quoi de neuf dino ? C'est un podcast RTS en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
Retrouve les 6 épisodes sur l'application Play RTS et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.
Jardin. Pauline Saiterlet.
En direct en extérieur de Fuy, au pied du domaine de Bedon, ici pour parler biodynamie pour les 100 ans de l'association. Enfin, les 100 ans, non, pas de l'association, les 100 ans de la biodynamie. Et nous recevrons donc des membres de l'association romande de biodynamie dans un jet de pierre. Mais avant, on retourne avec Nicolas sur cette question. Donc, on le disait, c'est un complément de réponse. Un monsieur qui voulait installer de la terre de bruyère dans son jardin pour y faire pousser des rhododendrons. Et il avait besoin d'un complément.
Oui, donc il pose la question, je vous contacte de nouveau parce que je voulais savoir si je devais ajouter autre chose à la terre de bruyère et dans quelle proportion. Alors, les personnes vont voir sur Internet, et là c'est marqué un tiers de terre de bruyère, un tiers de terre normale du jardin, un tiers de compost. Et ça, c'est pas tout à fait juste. Il faut pas croire que Internet c'est la vérité. Hein. au niveau jardinage.
On sait très bien que la vérité sort de la bouche de notre émission.
Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Donc, il faut prendre la terre de Bruyère pure, puisque le rhododendron ne supporte pas une terre qui a un pH trop élevé. Un pH, c'est l'acidité ou l'alcalinité de la terre, ça, c'est le pH. Et là, il faut vraiment prendre la terre de Bruyère pure. On peut faire soi-même la terre de Bruyère, comme je l'ai expliqué dans la réponse avant, avec des aiguilles de pin, avec on va chercher ça, mais on n'a pas le droit d'aller dans la forêt chercher de la terre dans la forêt. Donc, employez la terre de Bruyère qu'on trouve dans le commerce. Vous pouvez y mettre du sable cristallin avec, ça c'est valable.
D'accord. Ben merci beaucoup. Et c'est possible aussi quand vous nous écrivez des questions à l'adresse côtéjardin@rts.ch. Sachez que vous avez le droit, si c'est pas tout à fait clair, de demander une précision. Régulièrement, nos jardiniers se prêtent tout à fait au jeu du complément de réponse.
Oui, tout à fait.
Vous êtes adorable. Merci.
Et puis, on peut aussi aller voir sur Internet, mais il ne faut pas tout appliquer à la lettre qu'on lit sur Internet.
Mais c'est très bien de le dire parce qu'effectivement, on se pose toujours la question, mais pourquoi finalement une émission jardin alors que Internet regorge d'informations? Eh bien, parce que ce n'est pas toujours juste ce qu'on y trouve. Et puis surtout, ça ne s'applique pas toujours à tous les terrains. Et là, on a des super pros spécialistes de la Suisse romande.
Oui, et puis on a quand même une certaine expérience après quelques années de pratique.
Oui, tout à fait. Ben ouais, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est un peu l'émission où on parle justement de ces expériences, de cette manière de jardiner, peut-être qui nous reconnecte aussi avec une forme d'expérience ancestrale. C'est la biodynamie, on va en parler en détail. Alors on le disait, c'est ancestral et en même temps ça n'a que 100 ans, c'est très jeune. Et pour faire peut-être un premier contact pour toutes les personnes qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, je vous propose un extrait d'une archive de la RTS. C'est Appellation romande contrôlée et c'était en 2013.
Sur la première, côté jardin.
Tu peux y aller.
La lune est là, hein? La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein? Pour la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Et toujours lui, le soleil, rendez-vous, et la lune, la lune, c'est pas là. Le soleil attend, papa dit qu'il l'a vu à lui.
Un vigneron de la lune, oui, certaines façons, puisque depuis qu'on fait cette méthode de culture, eh ben, on s'intéresse beaucoup à la lune et puis à tous les astres. Puisqu'on travaille en fait en conséquence.
Raymond Paco n'est pourtant pas du type farfelu vigneron-œnologue. Il a opté depuis maintenant 3 ans pour la biodynamie. Il la pratique sur 50% de son domaine de 10 hectares.
On laisse pousser tout seul. Qu'on fasse attention hein, avec la pluie. Il y en a certains, ils sont pas beaux. Hein.
La biodynamie, c'est le retour de la nature. C'est recréer un équilibre entre les plantes et le sol, en harmonie dans l'univers. La biodynamie tient compte de la lune, du soleil et des constellations zodiacales. Les vignes sont laissées à l'état naturel et pulvérisées à certains moments de tisane d'ortie, de prêle ou encore de bouse de vache. Aucun produit chimique n'est utilisé.
On essaye, nous, de refaire de la culture. Ça veut dire qu'on fait plonger les racines. On applique, justement, on met plus d'insecticides, plus d'acaricides. On met plus de désherbants. Alors ça, c'est déjà des facteurs tout bêtes qui permettent certainement à une vigne d'être plus vivante. Mais quant à prétendre que notre vigne est plus belle que les autres, je pense que c'est trop prématuré.
François Murizier est le chef de la section viticulture de la station fédérale de Changin. Curieux de nature, il est loin de condamner la biodynamie.
Globalement, c'est ça, c'est une recherche d'observation de plus en plus approfondie pour dire, voilà, la plante n'est pas toute seule, elle s'inscrit dans un milieu, dans un environnement, et on doit respecter ces règles, finalement, du milieu, ces règles biologiques, de façon à en tirer profit, non pas d'aller contre la nature et contre les règles biologiques.
La biodynamie, c'est tout de même pas trop scientifique.
Ça serait présomptueux de dire tout ce qui scientifiquement n'est pas démontrable n'existe pas. On pourrait dire, il y a certainement des choses qu'on ignore dans les relations entre les personnes, les énergies qu'on échange, mais qu'on n'arrive pas à quantifier et à prouver scientifiquement.
Tout vin doit donner de l'émotion.
Tout vin doit donner de l'émotion.
Et si ça, c'est une des meilleures méthodes, il faut accentuer cette méthode.
Voilà.
Dominique Fornage est un très fin connaisseur de vins suisses et étrangers. Régulièrement, il organise des dégustations prestigieuses, attirant une clientèle européenne. Ici, c'est un ami qu'il vient déguster ses vins d'une nouvelle race.
Je crois qu'il faut continuer dans cette voie et que sur les premières années, on ne peut pas réellement avoir
des différences telles qu'on va dire ça c'est vraiment fabuleux, puis le reste ou ce que nous avons fait auparavant c'était nettement en dessous. Mais je crois que les personnes qui ont goûté des vins très vieux qui étaient vraiment parfaits vous marquent très longtemps. C'est des choses qui sont extraordinaires et on ne retrouve pas ça dans certains vins modernes.
C'est exactement ce qu'on essaye de retrouver, c'est l'émotion.
La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas.
Garant d'une culture respectueuse du sol et de l'environnement, la biodynamie est peut-être une des voies pour que le vin retrouve les qualités de celui d'autrefois.
En 1924, Rudolf Steiner rédige les principes philosophiques et agricoles qui vont donner naissance plus tard à la biodynamie. À l'occasion de ce jubilé, deux représentants de l'association romande de biodynamie sont là avec nous pour nous parler de leur travail, de cette association. Et puis pour parler aussi de l'avenir de ce mode de culture, proche peut-être, on va dire, de la médecine chinoise qui vise à renforcer les plantes plutôt que de traiter les problèmes. Bonjour Alain Bizard, coprésident et chef de culture de cette ARB, Association Romande de Biodynamie.
Bonjour.
Et Laurent Sommer, communication, développement, père au foyer aussi, ça fait partie de vos attributions professionnelles. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien. En tout cas, c'est très émouvant de revenir ici où j'ai déjà travaillé, où ça a été l'impulsion de la biodynamie pour moi.
C'est vrai?
Oui.
Racontez-nous, c'était quand?
Je vais peut-être donner aussi la parole à Laurent.
Non, mais dites.
Oui, c'était en 2019 où j'ai postulé pour passer la saison de vigne chez Marion, qui a généreusement accepté, qui a été vraiment l'élément déclencheur de cette impulsion vers la biodynamie. Puis j'ai pu observer tous les bienfaits que ça avait, en tout cas.
Laurent Sommer, on parlait dans ce reportage d'émotion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot? Est-ce que ce mot fait aussi partie de la biodynamie?
À fond, vraiment, et à plein de titres, parce que par exemple, moi, je peux juste vous dire pour la petite histoire que j'ai connu la maman de mes enfants en venant chercher les pommes à Bedon, vraiment, et je vis ici aujourd'hui, et c'est l'anniversaire de mon fils, qui était un peu une suite de tout ça, donc oui, et puis après, c'est aussi vraiment, il me semble que moi je suis tombé dans le chaudron de la biodynamie, et après j'ai jamais réussi vraiment à m'en séparer, parce que c'est quelque chose qui nous prend par les tripes.
Mais comment vous êtes tombé dans ce chaudron? Racontez-nous.
Grâce à un ami qui est viticulteur, arboriculteur, qui pratique la biodynamie depuis très longtemps, Alain Bercier, qui vit sur la côte, à Loing. Et il m'a emmené à des soirées mensuelles qui avaient lieu à l'époque à B. C'était animé par le fameux Cassoul, qui est une personne très importante pour la biodynamie en Suisse romande, qui animait des soirées entre professionnels et amateurs. Et c'était un peu des forums, conférences sur les fondements de la biodynamie. Et aujourd'hui, ces soirées existent toujours. Et c'est toujours le premier jeudi du mois. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard.
Alors, voilà. On disait effectivement, la biodynamie, ça a une histoire assez courte finalement, 100 ans. Et puis, c'est encore quelque chose qui est très curieux. Et puis, pour beaucoup de gens, parce que ça mélange effectivement des aspects plus ésotériques, comme on le disait aussi, cette question de la Lune qui apparaissait hein, dans ce reportage de 2013 de la télévision. Comment vous avez adopté finalement cette chose-là aussi dans la pratique de votre travail de viticulteur ou d'amateur en horticulture ou autre?
Par l'observation, en fait, principalement, ce qui a été dit dans les archives, et puis je crois qu'on se rend tous compte quand on observe la nature, en fait, c'est un livre ouvert. Et moi, ça faisait longtemps que j'observais des choses sans forcément les comprendre, sans forcément comprendre les interactions qu'il y avait entre elles. Et quand j'ai mis un pied justement dans la biodynamie, j'ai commencé à avoir des éléments de réponse et des choses assez simples. C'est vrai que les principes sont simples, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments en présence. Donc l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble et après de rentrer dans le détail. Et je suis dans cette dynamique pour l'instant de vue d'ensemble.
Alors je serais heureuse que vous me disiez, parce que vous parlez de simplicité, et je serais heureuse que vous me donniez quelques principes simples.
Alors, quelques principes simples.
Je vous piège un peu. Et si jamais Delphine, vous êtes là aussi,
oui,
Delphine Giraud-Valoton, vous soutenez vos collègues, hein, si jamais.
Tout à fait.
Le principe simple, c'est d'observer effectivement la tenue de la nature, savoir si les bois sont en bonne santé, si on observe ou pas des maladies, si on observe, par exemple, après des époques comme en ce moment, après des époques de sécheresse ou de trop de pluie, tous les excès, de voir comment le végétal se comporte. Et donc, ça dénote souvent, justement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, en observant, voilà, une vigne qui sèche trop tôt, des feuilles qui jaunissent trop tôt, ou des maladies qui sont beaucoup trop importantes, ça veut dire qu'il y a un écosystème qui est déséquilibré. Et après, ce qui est compliqué, c'est de trouver, mais d'où vient la source? Et petit à petit, on remonte à la source de d'où vient ce déséquilibre. Et la biodynamie est là vraiment pour travailler sur la source de tout ça.
Alors moi, je dirais qu'il y a un principe très simple en biodynamie, c'est travailler avec les rythmes. Et puis les rythmes, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et puis, bah, y a déjà les rythmes des saisons que tous les jardiniers connaissent. Donc ça, c'est vraiment très très simple. Donc les saisons, hein, c'est pas toutes les mêmes. On fait pas les mêmes exercices au printemps, en hiver. Tout le monde, enfin nos auditrices et auditeurs le savent. Et puis après, il y a les rythmes journaliers. On travaille pas la même chose le matin, le soir. On récolte pas les fleurs, certaines plantes le matin ou le soir. Il y a quand même alors en biodynamie, on parle de forces qui sont différentes. Et ça, vraiment, le respect des rythmes, c'est quelque chose qui est important en biodynamie. Et je pense qui est très accessible, qui est la simplicité.
Ici, on est au pied d'un domaine viticole. Évidemment, biodynamie et vin, ça paraît évident. Mais pourquoi? Pourquoi la biodynamie, elle est si importante dans le vin, dans la vigne? Et peut-être, on en parle un peu moins, mais même si elle existe, hein, dans l'agriculture ou dans l'horticulture. Pourquoi le vin? Laurent.
Alors c'est assez simple, c'est que bon, j'ai été œnologue pendant une vingtaine d'années, donc j'en connais un bout sur le sujet, on va dire ça. Et du coup, le vin, c'est quand même le produit, je pense, qui exprime le mieux la complexité d'un terroir, et parce qu'il y a en plus une transformation par la fermentation qui amplifie en fait les bons et mauvais côtés qu'on pourrait avoir sur le raisin. Donc c'est, je pense, la raison principale pour laquelle c'est aussi développé en biodynamie, enfin que la biodynamie a autant de succès auprès des vignerons, et les domaines les plus prestigieux dans le monde ont tous adopté cette méthode, et c'est pas par affinité particulière avec Rudolf Steiner, c'est vraiment parce que les résultats sont là. C'est vraiment le si on veut atteindre le sommet de l'expression d'un terroir, c'est grâce à la biodynamie, avec ce soin particulier au sous-sol. Ce sont en particulier justement à la rythmicité, donc de les notions de faire les bons travaux au bon moment. Ça peut aller jusque même au jour de la mise en bouteille, par exemple, ou la dégustation. Il y a des jours, par exemple, où on déguste moins le fruit que d'autres, selon la position des constellations et de la lune. Donc voilà, c'est plusieurs raisons comme ça qui, à mon avis, font que dans le vin, il y a un grand succès.
Laurent Sommer, Alain Bizard, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 9h. Si on a des questions biodynamiques, on peut venir les poser ici en direct à Fuy. Hein. Vous répondez, c'est juste.
On va y tenter en tout cas.
Oui, vous êtes là pour ça en tout cas. Et on vous remercie de vous être levé ce matin pour venir nous rejoindre en direct donc du domaine de Bedon, plutôt du pied du domaine de Bedon. On est à Fuy, au pied du téléphérique qui mène à ce domaine. Vous trouvez ça facilement sur Internet, hein, sur les cartes en ligne. Vous pouvez nous rejoindre. On a des croissants, on a du café chaud, puis surtout, on a des super jardiniers et des super jardinières pour vous répondre en direct jusqu'à 9h. On restera même un petit peu après. Si vous êtes un peu retardataire, on sera là. Pas trop longtemps, mais quand même. Et on se réjouit surtout de vous accueillir. Il est 7h18. On écoute un peu de musique et puis ensuite, on accueillera nos jardiniers pour une série de questions.
Sur la première, côté jardin.
Cherche-la dans les voix, cherche-la dans les jeux, cherche-la dans les choix, cherche-la dans le peu. Autour de ceux qui savent, des sourires et du temps, tout autour de l'instant, pas toujours quand c'est grave. Cherche-la dans l'estime, dans les moments intimes, elle se cache un peu là, un peu autour de toi. Elle est pas permanente, c'est une fuite en avant, c'est un soleil levant vu d'en haut de la pente. Cherche-la chez les autres, ou plutôt avec eux, dans les jeux amoureux, les amitiés qui tiennent, dans les secrets sucrés qui n'appartiennent qu'à toi. À une bouche, à une main, elle est toujours par là. Elle est pas installée, elle est pas résistante, elle s'enfuit, elle retente, elle s'éclipse, elle renaît. Elle est là quelque part, souvent juste elle attend que t'arrêtes de l'attendre et que tu puisses la voir. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps, tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Tu sais, elle prévient pas, un jour elle est plus. plus là. Un jour tu la regrettes, tu sais même pas pourquoi. Toi t'étais sur la brèche, à chercher l'impossible. T'as cru que t'étais la cible, mais t'étais juste la flèche. Je sais pas qui fait croire encore que c'est une case. Un trophée, un état, un trésor, une extase. En fait c'était juste là, sous tes yeux, sous ta peau. En fait c'était juste beau, mais tu le savais même pas. Passer sa vie à chercher ce qu'on avait déjà. C'est l'apanage des riches, des connards, des bourgeois. Parce qu'à force d'attendre que ça nous soit livré, on passe par-dessus bord, ou on passe à côté. Et on passe à côté, bien la moitié de sa vie, à chercher les instants, à regretter bêtement, sans voir que c'était là, fondu dans le quotidien, que peut-être ça revient, mais que peut-être pas. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps, tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps.
Vous savez ce qui est là, pas tout le temps, mais qui débarque à l'improviste et qui repart aussitôt? Ben, c'est la joie. Ben, la joie, elle est là ce matin, elle est là d'être avec vous en direct dans cette émission, en extérieur et en public. Un public qui commence à arriver. Évidemment, il fait un peu froid, on vous le cache pas, mais le soleil se lève et on sait qu'il va poindre bientôt le bout de son nez pour nous réchauffer le cœur et l'esprit. Nous sommes ici en direct de Fuy, il est 7h21 et Nicolas et Daniel, je vous propose de prendre une question qui nous est arrivée de Charles, qui habite en Valais, à Albinon, à 1200 mètres d'altitude. Et il nous dit qu'il a un chalet à Albinon et qu'il y a un pied de vigne rouge qui donne beaucoup de raisins. Le 12 septembre, il avait de belles grappes, mais on lui a conseillé d'attendre un petit peu, encore une semaine peut-être, avant de le récolter. Il est parti, il est revenu la semaine d'après, et puis grosse déception, pas une seule grappe. Tout a été mangé, nous dit-il, par les guêpes. Et il se demandait comment on pourrait éviter à l'avenir cette immense déception, malgré un filet. Hein, il a posé un filet, d'ailleurs on voit le filet sur les images. Et il se dit, mais comment je peux faire pour éviter de me faire manger mon raisin ? Nicolas Faïs.
Oui, donc, Albinen, c'est un joli coin, c'est les vignes les plus hautes du Valais, par là-bas. Et puis, ils ont des guêpes très voraces là-haut, hein. Parce que de manger complètement la grappe, c'est presque pas possible. Donc, les guêpes vont sucer, vont manger un peu les grains, ils vont piquer dans les grains, ils vont sucer le jus. Mais ils vont pas manger à faire disparaître tous les raisins.
Ça veut dire qu'il y a un autre responsable.
Je pense que c'est un autre animal, c'est pas un insecte, et ce sont des loirs. Je pense que c'est des loirs.
D'accord.
Donc le loir, c'est un petit rongeur qui est dans les murs en pierre sèche, ils se cachent et ils habitent là. Et ils sont friands de raisins. Donc ici, à cet endroit même où on est, il y a aussi une treille de raisins. Et il y a beaucoup de loirs ici autour. Donc on doit mettre des filets. Et on met des filets à un peu différents de ceux qu'il a là. Pas avec des mailles fines, avec des mailles un peu plus larges. Et puis blancs. Ça doit être blanc, le filet.
Ah bon ?
Parce que la couleur blanche...
Ça effraie les loirs.
Ça effraie les loirs et d'autres insectes. Aussi les guêpes, par exemple, ça effraie les guêpes. Et il faut bien fermer tout ça. Et puis si ça ne marche pas avec ça, on trouve dans le commerce des petits sachets en toile, transparents, on peut dire, qu'on met autour de chaque grappe. Ça, c'est la protection qu'on peut... conseillé pour les loirs. Autrement, il faut faire la chasse aux loirs.
Bah, vous nous expliquerez peut-être dans un prochain épisode comment on fait la chasse aux loirs, à moins que Daniel ait une idée pour les loirs. Comment vous chassez les loirs, vous ?
Alors, non.
Attendez, vous n'avez pas de micro. Attendez, je vous donne...
Voilà, c'est bon. J'en ai un.
Parfait.
Voilà. Heureusement, je n'ai jamais été confronté à ces bestioles. Mais c'est vrai que les rongeurs, c'est un gros problème. Et puis on essaie comme on peut de pouvoir les faire fuir.
Et on aura une émission, d'ailleurs, on a projeté là au début de l'année prochaine, peut-être au printemps, de faire une émission spéciale pour toutes ces histoires de rongeurs et de campagnols et autres rongeurs qui parfois ravagent quand même les récoltes, même s'ils sont mignons, Nicolas.
Oui, tout à fait. Donc pour les rongeurs, il y a des trucs sonores et tout, mais ça fonctionne pas très bien. Et quelque chose qui fonctionne pas mal, c'est certaines huiles essentielles qu'on peut appliquer et qui éloignent les rongeurs.
Merci à tous les deux. On peut écrire des questions pour la semaine prochaine. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, que vous ne pouvez pas venir ici à Fuy pour les poser en direct à nos jardiniers, à nos jardinières, vous pouvez nous écrire un mail à côtéjardin@rts.ch. Mais je le répète aujourd'hui, pas de standard téléphonique puisque nous sommes en direct et en extérieur de Fuy jusqu'à 9h et un petit peu après pour vous accueillir au pied du téléphérique qui mène au domaine de Bedon. Il est 7h25, un peu de sport ce matin et puis ensuite on revient avec nos invités. Nous aurons Sylvie Ramel qui est déjà présente et qui viendra nous présenter en direct une recette à base de kaki et puis Nadine Pfenninger-Bridy qui viendra nous parler des défis futurs concernant la vigne.
Bonjour, en hockey sur glace, en National League, deux défaites et deux victoires pour les clubs romands hier soir. Ajoie a battu Ambrì-Piotta 4-2 et Fribourg s'est imposé à Davos 3-2. Par contre, défaite de Genève-Servette à domicile 5-4 après prolongation contre Kloten. Les Genevois menaient 3-1 après le premier tiers et étaient menés 4-3 après le deuxième. Un passage à vide ou plutôt une succession de cadeaux pour le défenseur Arnaud Jacquemet.
Tous les goals qui marquent, c'est des cadeaux et c'est un peu voilà, c'est un peu notre problème depuis le début de saison. L'équipe adverse, elle doit pas vraiment se battre pour marquer des goals. Souvent j'ai des cadeaux de notre part et de nouveau ce soir ça a été le cas. On s'est bien battu au troisième tiers pour revenir, on a réussi à revenir. Voilà, je pense qu'on aurait pu marquer encore le goal gagnant au troisième tiers, mais c'est pas arrivé. Puis après voilà, ça nous prend des au nez.
Ouais, il y a ce deuxième tiers temps où Genève arrête totalement de jouer.
Oui, je pense que c'est pas la première fois cette saison que ça nous arrive. Il faut qu'on apprenne de ces choses-là. Maintenant, on n'est plus en début de saison, on est bientôt en milieu de saison, donc il nous faut des points aussi. On connaît le classement. Oui, on a des matchs en retard, mais voilà, c'est pas dit qu'on les gagne les matchs. Si on continue à faire des cadeaux comme ça au deuxième tiers aux équipes adverses, surtout quand elles viennent ici à la maison. Il faut qu'on remette le bleu de travail et qu'on retourne au charbon.
Arnaud Jacquemet avec Grégoire Augier. De son côté, Bienne s'est incliné à domicile face à Langnau, 1-0. Bienne qui compte de nombreuses absences, des joueurs confirmés, importants. Mais c'est un fait et pas une excuse pour la coprésidente Stéphanie Mérilla.
C'est pas une excuse, mais plus une explication, parce qu'effectivement, quand on doit remanier ses lignes et puis retrouver des nouveaux automatismes avec des lignes qui changent régulièrement, c'est toujours plus difficile. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un bel esprit d'équipe, il y a quand même une envie malgré tout, et puis je crois que c'est à ça qu'il faut s'accrocher, parce que effectivement, on a encore quelques blessés qui y seront encore peut-être pour un moment. Il y en a quand même quelques-uns qui ont des commotions cérébrales, c'est toujours des blessures. On ne sait jamais quand ils reviennent, ça se joue au jour le jour, justement. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on voit des jeunes talents qui viennent sur la glace, qui ont la possibilité de s'exprimer. Et puis ça fait plaisir depuis quelques temps. On voit Nolan Catin, on voit Blessing, on voit ce soir Jamie Villard qui vient pour la première fois sur la glace. Et puis, c'est vrai qu'on est, on l'a toujours dit, on est une équipe en reconstruction. Je trouve ça très très bien qu'on puisse donner du temps de jeu à ces jeunes joueurs, parce que c'est ces talents sur lesquels on va compter dans l'avenir aussi. Et je crois qu'il faut le voir aussi comme des matchs d'investissement, même si le résultat immédiat, il n'est pas là.
Stéphanie Mérilla avec Alain Thévaux. Classement Zurich, Davos et Lausanne compte 40 points. Bienne est 7e, Fribourg 9e, Genève-Servette avant-dernier avec 7 points d'avance sur Ajoie. En ski alpin, le premier slalom de la saison de Coupe du Monde n'a pas échappé hier à l'américaine Michaela Schifrin. 8e victoire à Lévis, 98e en Coupe du Monde. Elle a devancé l'Autrichienne Katharina Lienzberger et l'Allemande Lena Dürr. Très bon résultat des deux romandes. Camille Rast 5e, Mélanie Meyer 7e. Plus loin, on trouve Wendy Holdener 16e et Michel Guizine 24e. Et ce sera au tour des hommes aujourd'hui, avec des Suisses en position de favoris ou du moins de candidats au podium. Aux dernières nouvelles, Ramon Sennheiser serait très rapide. Loïc Meillard va prendre le départ. Son dos est remis après son forfait de Solden. Les hommes qui reviennent à Lévis pour la première fois depuis 2019. Et Daniel Yule y terminait d'ailleurs 3e du slalom. Il apprécie l'endroit.
Moi, j'adore cet endroit. C'est vraiment une super course pour débuter la saison. La piste, elle est belle avec les mouvements de terrain en haut et après ce long mur. C'est un début de saison, je vais pas dire tranquille, mais en fait, vu que c'est quand même un lieu qui est plutôt reculé, tout ce qu'il y a autour de la piste, il y a un peu moins de médias. C'est pas forcément les ambiances folles qu'on peut retrouver à Adelboden ou à Kitzbühel, mais vraiment, il y a une atmosphère qui est spéciale et je dirais un peu très intime avec le public et dans le village aussi.
Et de son côté, Marc Rochant, 4 participations au slalom de Lévis, n'a terminé qu'une fois, à la 19e place. Mais c'était avant qu'il ne fasse un bond de 46 rangs au classement de la spécialité, avant qu'il ne soit à l'arrivée de 9 des 10 slaloms de la saison dernière, son principal progrès.
Bien certainement la constance que je n'ai jusqu'à l'an dernier jamais eue. J'ai enfin touché au fait de pouvoir rentrer après tous les week-ends de l'hiver avec des points dans la poche, des résultats prometteurs et puis du plaisir. C'est une expérience supplémentaire. Je sais ce que ça fait d'être à l'arrivée de quasiment toutes les courses de l'année, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Donc à nouveau, j'engrange de l'expérience, des kilomètres et puis gentiment, je me place dans les avant-postes et je sais que je suis capable d'y rester.
À noter encore pour les Suisses les présences de Lucas Erni, Tanguy Neff et du néophyte. Première course de Coupe du Monde est au Mechelen. Première manche, 10h, la deuxième à 13h à voir sur RTS2 et RTS Sport. Et puis en tennis, la finale des Masters opposera aujourd'hui à Turin l'Italien Jannik Sinner, à l'Américain Taylor Fritz. Et chez les femmes, les Suissesses se maintiennent dans le groupe mondial après leur victoire contre la Serbie 3-0. Bonne journée.
Trop mangé de chocolat, croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit Saint-Saint, six nus pointus, zédo du deux, noisette de de chocolat
noir. Je précise, puisque notre invitée est Sylvie Ramel. Vraiment, Olivia Ruiz, c'était la chanson qu'il vous fallait.
Ah, absolument. Très, très bon choix. Bravo.
Merci d'être là, Sylvie. Vous êtes levée ce matin pour venir nous faire une chronique en direct parce que la semaine passée, ça a été la folie kaki dans toutes les questions de Côté Jardin. Hein, Delphine, vous étiez présente la semaine passée dans l'émission de dimanche dernier. Il y a eu énormément de questions sur les kakis.
Autant à l'écrit que dans les appels, ouais, c'est vraiment, on est dans une période kaki.
Et donc, ce matin, vous venez nous présenter le kaki, mais version pas jardin, version cuisine.
Exact, parce qu'en plus, c'est vraiment, vous m'avez un peu demandé une chronique qui soit simple. Alors, ça, c'est mon registre, hein, c'est mon fond de commerce.
Oui, on dit toujours le mantra de simplicité. Puis en même temps, je regarde devant vous, vous avez un mind map. C'est une, voilà, c'est un mind map, hein, c'est un dessin avec tout plein de mots qui se mélangent un peu partout. Et puis, il y a surtout au moins 25 préparations devant vous.
Oui, oui, vous exagérez pas du tout. C'est ça qui est bien.
Je vous laisse y aller.
Non, alors déjà, le kaki, pour moi, c'est vraiment le fruit magnifique en cette période, en novembre. On peut le récolter déjà dès octobre pour certains. Mais parce que quand les journées s'assombrissent, vraiment, c'est lumineux. J'en avais un quand j'étais à Chèvres, dans la cour. Et en fait, quand il a perdu toutes ses feuilles, qu'il n'y a plus que les fruits oranges, c'est vraiment un enchantement. Et puis, donc c'est le fruit du plaque minier. Donc ça, je ne vais pas revenir sur le côté jardin, puisque vous l'avez déjà vu. Mais c'est vraiment, c'est un fruit qui est originaire au départ du Japon, de la Corée, de Chine. D'où son nom aussi de plaque minier du Japon ou de Chine dans certains cas. Et puis maintenant, on a quand même plein de variétés de kaki, mais surtout deux grandes catégories, le kaki mou et le kaki dur.
Ouais, ça, c'est pour les non-connaisseurs, mais il y a le persimmon, ça, c'est le
voilà,
dur.
C'est celui que j'ai amené ce matin, qui est bien, bien ferme.
Ah oui, il est ferme. Ouais, là,
on l'appelle des fois le kaki pomme, et on pourrait vraiment le croquer comme une pomme. Alors après, là, il est encore orange assez clair. On pourrait tout à fait le laisser mûrir et puis devenir beaucoup plus orange, vraiment intense. Mais j'ai préparé en l'occurrence les choses que j'ai amenées ce matin avec du kaki qui n'était pas plus mûr que celui-ci. Et puis j'ai travaillé sur un peu deux aspects secrets, non pas secrets justement parce que je vais vous révéler les secrets ce matin, mais deux choses à savoir sur le kaki, c'est à la fois sa richesse en pectine, qui va nous être vraiment très utile en cuisine, et puis sa richesse en tanin, où une fois qu'on a bien compris le système, on va comprendre pourquoi on va l'utiliser à tel moment, le récolter à tel moment plutôt que tel autre.
Alors, dites-nous tout, justement.
Alors, je vous dis tout, ou presque. Donc déjà, sachez aussi qu'au niveau nutrition, c'est super intéressant quand même pour la vitamine C. Et puis, avec sa couleur orange, il a un tout petit peu dit qu'il était aussi riche en carotène. C'est aussi super sucré. Donc là, par exemple, je vous ai préparé des choses où il n'y a bien sûr absolument aucun sucre rajouté. Vous verrez, c'est déjà succulent. Et puis, pour commencer, je vous présente ceci avec de quoi goûter.
On dirait une compote.
C'est en fait uniquement un seul ingrédient.
Le
cru
kaki.
Du kaki.
Mixé cru, pas cuit.
Mixé cru, et puis si aussi les invités le goûter.
Alors, Nadine Pfenninger-Bridi, œnologue cantonale, goûte le kaki. Qu'en dites-vous?
C'est très doux, bon, très
ouais,
bon.
Ouais, c'est doux. Ouais.
C'est super sucré. Au niveau de la texture, il n'y a rien à redire, ça se tient bien. Et en fait, c'est vraiment la richesse au pectine qui fait qu'à peine vous mixez le kaki, quelques minutes plus tard, il va avoir cette structure.
Et c'est super parce qu'effectivement, c'est pas cuit, au contraire, peut-être des compotes de pommes, effectivement, qui perdent une partie des vitamines. Là, on est sur du cru.
Oui, et du cru est ultra rapide en plus. Et puis là, j'ai préparé, on pourrait dire, un parfait où j'ai mis donc au fond de mon petit pot de la compote crue de kaki, ensuite du yaourt, une petite pincée de cannelle. Donc là, vous avez un dessert qui, de mon point de vue, est déjà relativement festif, préparé en 5 minutes chrono.
Vous serviriez ça à Noël, Nadine, pour vos convives? C'est vrai que c'est joli, hein?
Ouais, pourquoi pas? J'aime beaucoup la cuisine et puis j'aime bien découvrir, donc pourquoi pas?
Oh, magnifique. Alors je goûte, je vous passe le pot. Avec le yaourt et effectivement la douceur du kaki, il ne manque rien du tout.
Voilà, on a trois ingrédients et c'est tout. Et si vous voulez rajouter encore une petite touche, je vais vous tendre ici des magnifiques petits vitraux, mais qui sont en fait simplement des tranches de kaki. Donc le kaki persimmon, le ferme, parce qu'évidemment l'autre, on ne va pas pouvoir le travailler comme ça, que j'ai tranché sur quelques millimètres à la mandoline, déshydraté pendant une douzaine d'heures. Et vous entendez, ça croustille, hein, effectivement. Mmh. Et vous rajoutez encore ça comme touche de décoration. Et là, vous êtes déjà prêt. Vous n'avez quasiment plus à cuisiner du tout pour les fêtes de fin d'année.
Et c'est beau. Et effectivement, comme vous le disiez, ça rappelle le vitrail parce qu'en transparence, on voit la lumière traverser ce kaki. C'est très, très beau. Hop. Et donc, Delphine va distribuer ces rondelles de kaki desséchées à toutes les personnes qui sont ici sous la tente, à Fuy en direct, on le disait ce matin. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est une autre préparation?
Alors, je reste sur le même registre, toujours au déshydrateur, parce que ça, c'est vraiment intéressant pour un fruit comme le kaki, notamment le kaki mou qui va se désagréger. Je vais venir juste après sur des préparations de déshydrateurs, mais là je suis encore sur le kaki persimmon que j'ai incrusté dans un cracker aux graines de lin. Donc je suis en mode cuisine crue, donc déshydraté à 42 degrés pendant de nouveau une douzaine d'heures. Et puis là j'ai mixé une partie des graines de lin, réduit en poudre, rajouté des graines de lin entières, ajouté du sirop d'érable, un peu d'eau. Et puis ensuite de ça, j'ai intégré un peu de kaki en morceaux dedans, une tranche en décoration dessus. Et
donc
puis
vous l'avez étalé finement, oui, j'imagine, exact, mis au déshydrateur avec des tranches de kaki dessus.
Oui.
Et ça donne effectivement des crackers. Voilà, c'est très beau, ça a l'air très bon. Je goûte. Hein.
Ça va croustiller un maximum.
Et quel intérêt de mélanger le lin avec...
Alors, le lin, il va produire du mucilage. Hein, et puis c'est ce mucilage qui va tenir ensemble les différents ingrédients.
Et c'est très bon.
Et là, vraiment sur une petite gourmandise très sucrée quand même, avec la dose de sirop d'érable que j'ai rajouté. Donc voilà, ça c'est déjà avec le kaki persimmon, donc on veut garder ce côté visuel, parce que c'est vraiment des tranches coupées, vraiment, qui permettent de mettre en valeur la très 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 belle forme du kaki. Si vous allez passer sur le site internet, vous verrez des photos, si jamais vous voulez avoir une idée plus précise. Et puis là, dernière chose... en mode cuir de fruits ou timbre de fruits. Donc là, j'ai mis de nouveau le kaki. Alors, ça pourrait être vraiment le kaki mou, sans problème. Réduit en purée crue, étalé sur la plaque de déshydrateur, sur 2-3 mm. Avec la déshydratation, on arrive sur quelque chose qui fait à peu près 1 demi-millimètre.
Là, il y a un goût qui soulève, enfin, qui pépille en bouche.
Oui, il y a une petite surprise.
Qu'est-ce que c'est?
C'est du poivre de compote, qui est un poivre passablement citronné. Qui va venir comme ça faire un joli petit jeu de contraste avec le sucré, voire le très sucré du kaki.
Et effectivement, de timbre de fruits, alimentation naturelle, crue et assez saine, on tombe sur quelque chose de très gastronomique avec ce petit poivre.
Et de nouveau, de très simple et très rapide à préparer. Donc, c'était à présenter ce matin, vous vouliez quelque chose d'assez simple et rapide. Mais moi, j'ai aussi envie que vous puissiez préparer dès maintenant, dès le mois de novembre, des choses simples et rapides pour les fêtes, pour faire un peu baisser le stress quand ce sera le gros rush.
Ben merci beaucoup pour ces recettes. Évidemment, il faut un déshydrateur quand on veut faire toutes ces recettes déshydratées, mais il y avait quand même aussi cette compote, comme vous le disiez, simplement mixée du kaki, et c'était vraiment super joli.
Et j'ai juste un avis de recherche, parce que dans mes petites recherches, j'ai trouvé la mention de la variété Diospyros Nikitas Gift. Si quelqu'un connaît ça ou a ça dans son jardin, ça m'a l'air juste incroyable, avec un mélange de saveurs entre abricot, poire, vanille, rhum et caramel.
Non. Comment s'appelle cette variété de kaki?
Nikita's Gift. Le cadeau à Nikita.
D'accord.
Alors, je veux bien être Nikita pour cette fois-là, si quelqu'un a ça sous la main.
Alors, si quelqu'un a un kaki Nikita's Gift et qu'il a goûté et qu'il peut témoigner si ça a bien le goût de abricot, vanille, poire, rhum et caramel.
Tout ensemble.
Hein. Ah bah dis donc, quelle promesse. Tout ça dans un fruit. C'est fabuleux. On sait si c'est un dur ou un mou?
Alors ça, je ne sais pas plus pour l'instant.
Mystère, mais on aura certainement des témoignages. Si vous avez ça chez vous, on veut bien votre témoignage à l'adresse côtéjardin@rts.ch.
Jusqu'à 9h, c'est Côté Jardin.
Quelle vigne pour demain? Réchauffement climatique, enjeux environnementaux, eh bien tout ça incite les chercheurs à trouver de nouveaux cépages plus résistants. Et pour en parler, nous recevons ce matin Nadine Fenninger-Bridy, chef de l'Office valaisan de la vigne et du vin et œnologue cantonale.
Bonjour.
Bonjour. Je suis désolée, j'ai un peu de poivre de compote qui me gratte le cou, mais ça va aller, je crois. Et dites-nous d'abord, pour commencer, quelle est la mission, en quoi consiste la mission de l'œnologue cantonale?
Alors, peut-être déjà ce que c'est pas. C'est pas quelqu'un qui sait tout et qui donne des leçons. Ça, c'est sûr. J'ai beaucoup à apprendre des expériences de tous les vignerons, les encaveurs. Mais moi, j'aime bien me définir un peu dans un rôle de lien. Un lien entre les producteurs, l'administration, les autres cantons, la confédération, la recherche. Je suis un petit peu au milieu de tout ça. Je travaille avec toutes ces entités. Et puis, ouais, j'aime bien ce rôle de lien.
Et au niveau de la recherche, ça bouge énormément. On a souvent Changin qui revient quand on parle d'innovation en matière de viticulture. Dans quelle direction, quelles sont les grandes avancées de la recherche au niveau viticulture ces dernières années et pour l'avenir?
Oui, alors nous on a beaucoup de chance parce qu'en 2021, le canton du Valais a signé une convention avec Agroscope, l'association de producteurs vitivales et AgriIdea qui est responsable de vulgarisation agricole. Et on a créé une station de recherche décentralisée. Ça veut dire que on mène des essais sur nos domaines avec les vignerons valaisans et tout ça supervisé par Agroscope. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour le Valais parce que c'est pas, les chercheurs sont plus dans leur laboratoire un peu décalé de la réalité du Valais, mais ils sont ici et on collabore avec eux. Les axes de recherche aujourd'hui, c'est comment on va s'adapter à ce réchauffement climatique en termes de cépages. Alors, il y a les cépages robustes. On a planté ce printemps sur le domaine de Châteauneuf, donc domaine de l'État du Valais, 12 variétés de cépages robustes pour voir comment ils se comportent sur nos terrasses et voir aussi à la vinification ce qui peut être intéressant pour le futur.
Ce sont quoi? Enfin, quelles sont ces variétés? Si on peut donner quelques noms de cépages.
Alors, il y a de l'Artaban, il y a du Vidoc, il y a du Floréal, du Voltis, puis il y en a qui ont des noms de code encore parce qu'ils n'ont pas encore été homologués, ils n'ont pas encore été baptisés. On attend de voir s'ils sont vraiment intéressants avant de pouvoir aller de l'avant avec ces cépages-là.
Le vin en Valais, ça a de l'avenir ou est-ce qu'il va falloir se tourner vers d'autres types de cultures?
Ah ben je pense que le vin il a de l'avenir en Valais, il fait partie de notre ADN et puis le lien c'est le vin c'est un magnifique rassembleur, lien social et qu'à ces aspects-là il a de l'avenir devant lui encore.
On le disait tout à l'heure avec les représentants de l'association romande de biodynamie, le vin a de cela intéressant et la vigne a de cela intéressant qu'elle est vraiment très très liée à son terroir et elle permet justement un lien à la terre qui est particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation ?
Oui, alors peut-être en Valais c'est un petit peu différent parce que très longtemps on s'est pas intéressé au terroir en Valais. On a vraiment axé notre commerce en fait sur la diversité des cépages et on s'est intéressé à la typicité des cépages plus que vraiment à la typicité des terroirs. Oui, on avait toute cette diversité, on a toujours toute cette diversité de cépages qui fait que peut-être contrairement aux cantons de Vaud qui, eux, ont cherché à distinguer les chasselas de différentes régions parce que le 95% du vignoble était planté de ce cépage-là, pour se distinguer, il fallait mettre en avant un terroir. C'est pas ce qu'on a fait en Valais, mais aujourd'hui, de plus en plus de vignerons mettent en avant ces terroirs et c'est important.
On parlait de biodynamie. Est-ce que au niveau recherche, on touche à la biodynamie ou est-ce qu'il y a une sorte de rupture? Parce que souvent on l'entend, on dit mais la biodynamie c'est pas entre guillemets scientifique. Et on le sait que c'est important, c'est extrêmement valorisé dans le milieu de la vigne et du vin. Et donc je me demandais si aussi au niveau de l'innovation, des recherches, il y avait un lien en fait qui pouvait se créer entre la biodynamie et en même temps effectivement de l'innovation et puis la mise en avant de savoir et de compétences et de connaissances sens scientifique.
Alors il n'y a pas vraiment de recherches qui sont au niveau de la biodynamie. Je pense que mettre la biodynamie dans ce cadre de recherche scientifique, ce serait peut-être pas juste parce que la biodynamie, enfin, je suis pas du tout spécialiste, hein, mais je pense que ça se vit, ça se ressent, ça s'apprend un peu dans les livres, mais surtout au contact de la nature. Et puis, je suis pas sûre que le cadre de recherche scientifique soit très adapté à la biodynamie, mais peut-être que oui.
On va donner la parole à Marion Grange, qui est la vigneronne du lieu, qui nous accueille ce matin. Qu'est-ce que vous en dites, vous là? Ça serait plutôt positif que les scientifiques se penchent un peu sur les principes de biodynamie ou pas?
Ça me tombe un peu dessus. Je savais pas que ça... Oui, je sais pas vraiment. S'il y a de l'intérêt pour. Après, c'est une approche. C'est une approche et quand le cours d'agriculture a été donné en 1924 par Rudolf Steiner sur demande des paysans, ils ne voulaient pas, c'était que des paysans qui assistaient à ces conférences. Ils ont dû signer comme quoi ils ne divulgueraient pas tout ça avant que ce soit scientifiquement prouvé. Et il a mis en place la recherche par des chercheurs de l'époque. Mais ça a été quand même divulgué, donc voilà. Ils n'ont pas pu le prouver avant. Et puis il y a beaucoup de choses qui se vérifient et d'autres qu'il faut rechercher. Et c'est clair que plus on est de personnes à travailler là-dessus, plus on verra les résultats. Maintenant, est-ce que la recherche officielle s'intéresse à ça? Je ne sais pas. Mais bon, en biodynamiste, on se met ensemble et puis on cherche ensemble les solutions. Il y a quand même des choses qui ont été prouvées.
Intelligence commune.
Mais je ne sais pas. C'est pourquoi pas.
On a Laurent Sommer qui est là avec nous aussi de l'association de l'ARB, Association Romande de Biodynamie. Vous aviez envie de dire un mot sur cette question par rapport à la recherche? Est-ce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent aux principes de biodynamie?
Alors beaucoup, je ne sais pas, mais il y a surtout le FIBEL qui est quand même une institution très reconnue dans le monde entier, qui est basée en Suisse, qui mène un essai depuis 45 ans. Quand même. Et c'est un essai très sérieux et il vient d'être publié d'ailleurs la traduction au français du dernier rapport sur 45 ans de cultures différentes. Donc des comparaisons entre les méthodes, on va dire en guillemets chimiques, biologiques et biodynamiques avec plusieurs variantes et ça donne des résultats assez spectaculaires.
Et on peut trouver ce rapport sur le site de FIBEL.
C'est vraiment en accès libre. Il y a même un PowerPoint pour vulgariser un peu ce rapport.
Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Nadine Pfenninger-Bridi.
Oui, pour peut-être juste compléter. Je disais qu'on ne faisait pas vraiment de recherche dans le cadre de cette station décentralisée sur la biodynamie au niveau de la vigne. Par contre, on fait des essais aujourd'hui de vinification sans intrants. On s'approche un petit
Bien
peu
sûr.
De ces vins nature pour
Ça
aussi
infuse.
Essayer de comprendre aussi ce qui se passe et comment on peut mieux maîtriser aussi.
C'est des enjeux, j'imagine, très très importants aussi pour l'avenir de cette culture du vin aussi pour aussi qu'il soit effectivement bien intégré dans les autres enjeux de protection de la nature cantonaux.
Tout à fait, c'est important. Le consommateur le demande aujourd'hui d'avoir des vins les plus naturels. J'aime pas tellement dire nature, mais naturels possible, tout en gardant une qualité qui soit intéressante pour le consommateur. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se passent d'intrants. Qui essaye d'être au plus près du produit et de la nature parce que ça demande une maîtrise incroyable et on s'interdit des outils qui limitent le risque et c'est des prises de risque importantes, économiques aussi et j'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui partent dans cette voie-là.
Eh bien, on partage ce respect, puis on a senti aussi dans les discussions qu'on a eues déjà la première heure avec Marion à quel point c'est de toute façon tellement ancré dans le cœur et l'âme du vigneron quand il travaille de cette manière qu'il n'a pas d'autre choix que de suivre ce respect de la terre et du produit j'imagine quand le virus de la biodynamie entre guillemets ou quand l'inspiration pour la biodynamie arrive, c'est difficile d'y résister, Marion. Enfin, quand vous avez observé comment votre domaine a évolué grâce à ça, ben vous pouvez pas vraiment revenir en arrière.
Non, on n'a pas envie de revenir en arrière. Après, on a des visions et puis on essaye de les réaliser. Mais il y a toujours le côté pratique, il y a des côtés limitants, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ça demande du travail, il faut observer, il faut avoir de l'aide. La vigne est une culture très exigeante en main-d'œuvre, dans les pentes raides de Bedon encore plus. Il faut trouver les gens qui veulent travailler avec vous. Et puis, on ne peut pas réaliser peut-être son idéal comme on veut. On fait comme on peut. Et puis, on essaye de... Puis après, mon idée, c'était que puisqu'on cultive au plus proche de la nature dans la vigne, j'avais aussi entendu dire que les vins issus de vignes cultivées comme ça étaient plus résistants. Je me suis dit, pourquoi pas aller un pas plus loin et essayer de supprimer, nous, le seul intrant qu'on s'autorise dans les vins, c'est le SO2, le soufre. et en quantité qu'on essaye le plus bas possible. Mais je me suis dit, peut-être on pourrait essayer de supprimer ça aussi. Oui, c'est pas évident. Et jusqu'à 18 ou 19, c'était Pierre-Antoine Crétenan qui vinifiait pour nous. Maintenant, il nous coache toujours, mais on a pris ça en main dans le domaine avec mon collaborateur Gentile Cardozo, qui s'occupe de la cave. C'est Pierre-Antoine qui lui a transmis tout son savoir et qui continue de superviser pour que la grand-mère apprentie en cave fasse pas trop de conneries.
Parce comme que quoi, on apprend toujours.
Oui, on a envie, on se dit oui, ce serait bien de faire, mais il faut voir jusqu'où on peut aller sans que le vin tourne en vinaigre. Parce que c'est pas le but. Il faut que ce soit, même si c'est nature, il faut que ce soit bon. Parce que si on a raté un truc, on peut pas se rattraper. Donc il faut déguster très souvent, il faut faire très très attention.
Beaucoup observer, ça c'est vraiment la constante.
Oui, hein, et en cave, il faut observer avec la bouche, avec le nez, les yeux aussi. Mais pour moi, c'est un domaine que j'apprends. Je suis une apprentie en cave, vraiment. Et je vois que c'est une alchimie incroyable. Et c'est comme dans la nature, il n'y a pas une année pareille, il faut s'adapter, il faut être continuellement sur le qui-vive. Mais il y a quelques beaux résultats.
Merci Marion. On vous accueille ici à Fuy jusqu'à 9h.
Il vero lusso è la povertà, mi dicevi l'altra sera a tavola. Il vero lusso è la povertà, perché il povero un sogno ce l'ha. Quante cose si dicono a tavola che in pubblico non diresti mai, soprattutto da quando la ghigliottina la lama affilata e lo sai che la donna adesso è più donna, non è più la donna di chi che sia. E anche dire che lei è la tua donna non va mica bene, mica roba tua. Ti vedo un po' stanco, maschio etero bianco, tra ricatti morali, colpe ancestrali, monete di scambio. Tu vorresti tornare di nuovo ai bei tempi di mamma e papà, perché ti sembra normale che non sia normale la diversità. La droga, la moda, il calcio, la figa, mi piace scopare la maglia della nazionale, po 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 po. È l'amore, 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 l'amore. È sempre d'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. Il vero lusso in questi tempi di guerra è avere una casetta con un pezzo di terra, un orto e una vigna di guarnaccino, due calci ad un pallone e un bicchiere di vino. Quante volte ho sentito gente che vive in città e che loda la vita bucolica, però in campagna poi mica ci sta. È l'amore, 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 l'amore. È sempre l'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. È l'amore, 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 l'amore. È sempre l'amore si parla, ma poi l'amore.
Rissas, En direct de Fuy, où la tente commence à se remplir. Parce que oui, on a mis une tente ici, au pied du domaine de Bedon. Il n'y avait d'abord personne. Et puis là, il y a de plus en plus de monde parce que l'ambiance se réchauffe. Allez, on part sur la route.
Infotrafic RTS. Infotrafic RTS.
Pour vous dire simplement qu'on roule très très bien sur les routes de Suisse romande et que vous pouvez trouver l'info route en temps réel sur le site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS, Infotrafic en collaboration RTS. Avec les CFF et le TCS. CFF et le TCS.
Et jusqu'à 9h, nous sommes ici en direct de Fuy, au pied du téléphérique qui mène au domaine de Bedon, avec Marion Grange, avec Nadine Pfenninger-Bridy et avec tous nos invités de l'association romande de biodynamie. On fête les 100 ans de la biodynamie et on parle des soins apportés à la vigne.
RTS La Première, RTS La Première, vous offre l'heure.
Et vous écoutez La Première, il est 8h.